Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Lecture, culture, c'est l'heure du temps calme.
Eh bien, bonjour à tous les enfants, bienvenue dans Salut les kids pour la dernière émission. Et oui, salut les kids, c'est terminé. Et je voudrais pour cette dernière émission vous repasser les meilleures histoires, mais aussi les mots d'anglais que vous avez déjà appris, pour être sûr que vous êtes devenus des petits bilingues. Je vous retrouverai en fin d'émission pour se dire au revoir. En attendant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 28 mai, il ne reste qu'un mois d'école. C'est génial ça. Vous allez pouvoir jouer dehors désormais. Et je suis sûr que vous avez plein d'aventures qui vous attendent. Alors si tout le monde est prêt, on démarre l'émission, c'est parti!
Oyez, oyez! C'est l'heure du mot d'anglais.
Le mot d'anglais du jour, le voici, écoutez attentivement. Garden. 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 Ça veut dire jardin. Il s'écrit en 6 lettres. G-A-R-D-E-N. En anglais, G-A-R-D-E-N. Garden. Garden est utilisé dans la vie de tous les jours, que ce soit le jardin de la maison ou le nom d'un parc public dans une ville, le City Garden. C'est aussi la base pour les activités liées au jardin comme gardening, qui est l'entretien du jardin. Vous pouvez utiliser ce mot dans la phrase « I play ball in the garden », qui veut dire « je joue au ballon dans le jardin ». Je réutilise ici le mot « ball » déjà appris dans « Salut les kids ». Avec les beaux jours du printemps qui arrivent, le jardin va devenir le nouvel espace de jeu. Alors, à vous de vous amuser en anglais. Let's play in the garden. On démarre maintenant la première histoire de Salut les Kids. C'est l'histoire de Clément le crocodile au grand cœur. Installez-vous confortablement et vous pouvez même en profiter pour faire la sieste.
La grande histoire.
Il était une fois, dans une grande rivière étincelante, un crocodile nommé Clément. Clément n'était pas comme les autres crocodiles. Non, non, non. Il avait un cœur aussi grand que son corps. Chaque matin, il se réveillait avec le chant des oiseaux et le doux murmure de l'eau. « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial », se disait-il en souriant. Un jour, alors qu'il se prélassait au soleil, Clément entendit un bruit étrange. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda-t-il. Et en se penchant, il aperçut un petit canard en détresse.
« Quack, 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 quack !»
cria le canard, coincé entre des roseaux. Clément, avec son grand sourire, s'approcha doucement. « Ne t'inquiète pas, petit canard, je vais t'aider. » Avec délicatesse, il utilisa sa grande queue pour écarter les roseaux.
« Ouf, merci Clément, je m'appelle Camille, je suis perdu et je cherche mon chemin vers le lac. »
Clément, toujours souriant, répondit « Je vais t'accompagner, Camille. Ensemble, nous allons trouver ce lac aux fleurs. » En chemin, Clément et Camille rencontrèrent une joyeuse tortue nommée Tacha. «
Bonjour les amis, que faites-vous ici ? » demanda-t-elle en souriant.
« Nous cherchons le lac des fleurs, » répondit Camille.
« Peux-tu nous aider ?»
Tacha, avec un regard pétillant, répondit
« Bien sûr, je suis si rapide dans l'eau et je connais tous les secrets de la rivière. »
Ainsi, l'équipe grandit. Ensemble, ils continuèrent leur route en riant et en chantant.
« Nous sommes une équipe d'amis. Nous allons atteindre le lac des fleurs à la fin de la route, c'est notre but. »
chantait-il en chœur, mais tout à coup, un grand bruit fit trembler le sol. Un hérisson nommé Hugo sortit de derrière un buisson tout effrayé.
« Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il en tremblant.
« Ne t'inquiète pas, Hugo, c'est juste un bruit !» expliqua Clément.
« Nous allons au lac des fleurs. Veux-tu te joindre à nous ?»
Les yeux d'Hugo s'illuminèrent.
« Oh oui, j'adore les fleurs !»
dit-il en se remettant de sa frayeur. Ainsi, Clément, Camille, Tacha et Hugo formèrent une équipe colorée d'amis, prête à vivre une grande aventure. En avançant, ils arrivèrent à un pont en bois ancien.
Mais oh là là, le pont était gardé par un vieux hibou, sage et mystérieux. « Qui ose passer mon pont ?» demanda le hibou d'un ton grave. « C'est moi, Clément et mes amis, nous cherchons le lac des fleurs. » Le hibou plissa les yeux. « Pour passer, vous devez répondre à une énigme. Écoutez bien. Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort ne peut pas me retenir. Qui suis-je ?» Clément, pensif, se gratta la tête. Un nuage ?»« Non, ce n'est pas ça. » Camille se mit à réfléchir, puis elle s'écria. « Je sais, c'est le vent !» Le hibou hocha la tête, satisfait. « Bravo, petit canard, vous pouvez passer !» Tous traversèrent le pont en riant. « Nous sommes intelligents et courageux !» s'exclama Tacha. « Ensemble, nous surmontons les défis !» ajouta Hugo, tout joyeux. Enfin, après une longue marche, ils aperçurent une lueur dorée au loin. « Regardez, c'est le lac des fleurs !» cria Camille en battant des ailes. Ils coururent avec enthousiasme et se trouvèrent devant un magnifique lac rempli de fleurs colorées qui dansaient au gré du vent. « Oh, c'est magnifique !» s'écria Clément, ses yeux brillants d'émerveillement. « Merci, mes amis, de m'avoir accompagné dans cette quête. Sans vous, je ne serais pas arrivé ici. » Tous se mirent à sourire, heureux d'avoir accompli leur mission ensemble. Clément se retourna vers ses amis. « Que diriez-vous de faire un grand pique-nique ici, au bord du lac ?»« Oui, oui, oui !» dirent-ils tous en cœur, joyeux comme des poissons dans l'eau. Ils sortirent des fruits frais et des biscuits qu'ils avaient apportés. Ensemble, ils mangèrent, rirent et chantèrent toute la journée. Au coucher du soleil, Clément, Camille, Tacha et Hugo se regardèrent, le cœur rempli de joie. « Nous avons appris beaucoup aujourd'hui, » dit Clément. L'amitié, le courage et l'importance de s'entraider. Et c'est ainsi que dans la lumière dorée du soleil couchant, les quatre amis s'assirent ensemble, écoutant le doux murmure du lac. Ils savaient que, peu importe les défis à venir, tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Et ils vécurent de merveilleuses aventures, remplies de rire et de bonheur, toujours unis pour leur précieuse amitié. Fin de l'histoire.
La grande histoire.
Oyez, oyez, c'est l'heure du mot d'anglais.
Et c'est parti, le mot du jour c'est mine. 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 Ça veut dire la mine, comme la mine de diamants où vont les sept nains dans Blanche-Neige. Mais ça veut dire aussi le mien, comme quand vous parlez d'un objet qui est à vous. Il s'écrit en quatre lettres. M-I-N-E. En anglais, M-I-N-E. Mine. Pour Minecraft, mine veut dire aller à la mine et extraire des ressources. C'est comme creuser dans le sol et trouver des choses que l'on peut transformer. Les objets que vous possédez chez vous, comme vos jouets, la voiture de papa et maman, et même moi avec le micro dans lequel je vous parle, sont fabriqués à partir de ressources qui ont été minées dans le sol. Sur la planète, il y a des mines de charbon, coal mine, des mines de diamants, diamond mine, des mines d'or, gold mine, et des mines de pierre, rock mine. Et toutes ces mines nous permettent de trouver dans le sol des ressources qui servent à fabriquer nos objets de tous les jours. Mine, ça veut dire aussi le mien. C'est-à-dire, quand vous parlez d'un objet qui vous appartient, vous pouvez dire « This is mine », c'est le mien. Je vous propose d'écouter une chanson qui parle de la mine. En anglais, c'est la chanson « Hey Ho » des sept nains de Blanche-Neige. Écoutez.
No trick to get rich quick.
If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine,
in a mine,
in a mine,
in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from mine to mine. We dig.
Et voilà les enfants, vous êtes des petits mineurs de fond maintenant et je vous retrouve tout à l'heure en cours d'émission pour le deuxième mot d'anglais du jour.
La grande histoire.
La grosse bête de Monsieur Racine. Monsieur Racine, receveur des contributions directes en retraite, vivait paisiblement dans une villa retirée. Il était heureux à sa façon, allant, venant, les pieds à l'aise, surveillant les oiseaux et les nuages et bricolant dans son petit jardin. Dans ce jardin poussait un poirier dont Monsieur Racine était très fier. Il portait des fruits d'un parfum et d'un goût extraordinaire. Les poires de cet arbre lui avaient valu de nombreux prix au concours agricole de la région et des millionnaires avaient offert d'en acheter très cher la récolte. « Que ferais-je de tout cet argent ?» pensait Monsieur Racine. « Les poires sont à moi. Je les aime, je les mange. Elles ne sont à vendre, ni en gros, ni en détail. » Monsieur Racine était un homme heureux. Mais un matin, hélas, trois fois hélas, il s'aperçut que toutes ses poires avaient disparu. En menant son enquête dans l'enclos, il remarqua de curieuses empreintes que le voleur avait laissées derrière lui. Oui, des empreintes vraiment étranges. C'était comme si la terre avait été foulée par un gros pilon plutôt que par des pieds. « C'est renversant, véritablement renversant !» s'écria-t-il. « Il n'y aurait qu'un jeune éléphant pour avoir laissé de telles traces. Une poire pendait, immobile, à une haute branche. « Ah, il en reste une !» dit Monsieur Racine. Le maraudeur viendra sûrement la chercher, et je lui donnerai alors sur place la punition qu'il mérite. Il alla chercher du fil, en attacha un bout à la poire dorée et l'autre à la sonnette qui pendait à l'entrée de la villa. Puis, il passa son vieil uniforme de cavalier et se sangla dans sa cuirasse luisante. Face à la porte ouverte, il attendit tout le jour, son sabre sous la main, prêt à servir. Les heures s'écoulèrent, et Monsieur Racine s'endormit. Le soir tombait lorsque, soudain, la sonnette se mit à tinter timidement. Notre justicier se leva d'un bond et saisit son sabre. « Oh, sapristi !» Là, dans le crépuscule, se tenait une bête qui était bien la chose la plus étrange que Monsieur Racine eût jamais vue. C'était à peu près de la taille d'un jeune veau. De loin, on eût dit un tas de vieilles couvertures. De longues oreilles flasques pendaient comme des chaussettes des deux côtés d'une tête dont on ne voyait pas les yeux. Une crinière hirsute couronnait un museau tombant. Les pieds ressemblaient à des souches et les genoux flottaient dans une peau trop large. Ça ne faisait aucun bruit. La colère de Monsieur Racine fit place à la curiosité. « Ça ne paraît pas bien dangereux », se murmurait-il en sortant de sa maison. La bête ne bougeait pas et semblait même disposée à faire connaissance. Monsieur Racine sortit un macaron de sa poche et, le piquant à la pointe de son sabre, le présenta à la bête. L'offre amicale fut acceptée. « Quelque gentillesse de ce genre, et on pourrait l'apprivoiser !» pensa Monsieur Racine. Il alla dans sa cuisine, en rapporta un morceau de tarte aux pommes, du saucisson, du pâté et une bouteille de vin rouge. Et l'homme et la bête pique-niquèrent cordialement sous le poirier. Il faisait nuit quand l'animal se leva pour partir. « Bonne nuit, douce chose !» dit Monsieur Racine en embrassant sur les deux joues son visiteur. « Revenez demain, nous passerons tous deux d'agréables moments. » Depuis ce jour, la bête revenait à chaque fin d'après-midi et chaque nuit, elle disparaissait dans la forêt d'où elle était venue. Elle était surtout friande de biscuits, de chocolat et de crème glacée. Monsieur Racine désirait tellement plaire à son invité qu'il fit installer à grands frais un congélateur pour conserver les énormes bacs de glace qu'on lui livrait de la ville. Les jours de pluie, il se contentait de rester à l'abri, assis sur le vieux sofa que Monsieur Racine avait hérité de sa tante Sophie. Les deux amis aimaient la musique qu'ils écoutaient avec ravissement. « J'ai perdu mes poires, » pensait l'ancien receveur, « mais j'ai trouvé un ami. » Les jours de beau temps, quand l'état des routes le permettait, il chargeait la bête dans une remorque accrochée sur son tricycle à moteur et il démarrait à une vitesse vertigineuse. L'animal était folâtre et Monsieur Racine lui aménagea tout un terrain de jeu pour qu'il puisse s'y ébattre à son aise. C'était un beau spectacle de voir le vieil homme et son protégé s'y détendre ensemble. Monsieur Racine ne cessait pas d'étudier l'animal, de prendre des photos, de faire des croquis, de noter des mesures. Mais il ne lui trouvait aucun rapport avec une forme vivante quelconque.
Les tissus de son corps étaient sans vie et il n'avait pas de squelette. L'ensemble du corps paraissait être un assemblage de parties vivantes indépendantes les unes des autres. Monsieur Racine fouilla sa bibliothèque pour y trouver quelques indications. Mais rien. Nulle part, on ne parlait de la bête. Monsieur Racine décida donc d'écrire à l'Académie des sciences de Paris. Il joignit à sa lettre une étude détaillée sur le comportement de l'animal, ainsi qu'un choix de photographie. La réponse ne se fit pas attendre. La découverte de Monsieur Racine avait fait sensation parmi les académiciens et on l'invitait à venir la présenter à Paris. Il se mit tout de suite au travail et, avec l'aide de l'animal, il construisit une cage confortable. Elle fut transportée à la gare la plus proche aux frais de l'État. L'arrivée à Paris fut triomphale. Le président du conseil municipal lui-même souhaita chaleureusement la bienvenue à ce nouveau prodige français. Des musiques militaires escortèrent nos amis jusqu'à l'hôtel. Partout se trouvaient des reporters et des photographes. Des propriétaires de cirque, des directeurs de zoo et de riches amateurs offrirent des fortunes à Monsieur Racine pour son animal, mais en vain. « Que ferais-je de tout cet argent ?» répétait-il. « La bête est mon amie, et on ne vend pas ses amis. Laissons donc les choses comme elles sont. » Le lendemain, c'était le grand jour. Les académiciens étaient réunis dans l'amphithéâtre. À 10h, la porte du fond de la scène s'ouvrit, et Monsieur Racine entra, vêtu d'un complet noir bien coupé, et suivi de la bête. Il y eut des « oh » et des « ah » dans l'assistance, qui se mit tout entière à applaudir. Quelques dames s'évanouirent. Sur l'estrade, Monsieur Racine était prêt à faire sa présentation. « Mesdames, messieurs, honorables académiciens !» Et c'est alors qu'il se produisit quelque chose d'incroyable. L'animal, qui était toujours resté silencieux, éclata nerveusement d'un rire bête. En se secouant et en se tortillant, il se fendit et se mit en pièces. Et d'un tas de pots et de chiffons sortirent deux enfants. L'assemblée, d'abord muette et frappée de stupeur, se déchaîna en un vacarme épouvantable. Ce fut la panique. On appela la police pour évacuer l'amphithéâtre. Quand la nouvelle se répandit parmi la foule des curieux qui attendaient dehors, une bagarre s'engagea. Des autobus furent renversés. Des actes inqualifiables furent commis. Ce fut un beau gâchis. On en parle encore aujourd'hui. Monsieur Racine, qui avait le sens de l'humour, trouva la farce à son goût. Après avoir félicité les enfants pour leur ingéniosité et leur endurance, il leur fit faire un tour de la capitale. Puis, ils rentrèrent tous à la maison, et les enfants furent rendus à leurs parents, de braves paysans qui habitaient de l'autre côté de la forêt. L'année suivante, M. Racine eut une nouvelle récolte de poires qu'il fut tout heureux de partager avec ses deux jeunes amis. Fin de l'histoire.
Salut les kids, c'est l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-moi Nicolas un mercredi sur deux à 13h. Salut les kids, c'est une émission fun et éducative, avec de la lecture et de la culture. Toi aussi, viens t'amuser avec nous sur le 101.5 FM. Allez, salut les kids.
Oyez, oyez! C'est l'heure du mot d'anglais.
Allez, c'est parti. Le premier mot d'anglais du jour, c'est helmet. 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 Ça veut dire casque, comme celui à vélo, ou le casque que les Gaulois portaient sur la tête, ou même comme le casque de chantier. Il s'écrit en six lettres. Le H, le E, L, M, E, T. En anglais, H-E-L-M-E-T, helmet. Le mot helmet s'utilise tous les jours. Quand tu fais du vélo, avant de partir, tu mets ton casque. En anglais, on dit « I put my helmet ». Les Gaulois portaient un casque sur la tête car ils étaient des guerriers. C'était donc un casque de protection qu'on appelle « protective helmet ». Comme celui sur le chantier de construction aujourd'hui. Helmet commence par un H. Il faut donc expirer très fort au début, ha, pour prononcer la suite du mot helmet. Voilà les enfants, pour votre prochain tour de vélo, vous n'avez plus qu'à dire helmet quand vous allez mettre votre casque et le tour est joué.
Vous voilà avec un nouveau mot d'anglais dans votre besace. À tout à l'heure pour un deuxième mot.
Elliot, tu crois que c'est la dernière histoire ?
Le secret du druide à Elorix. Dans une clairière secrète de la vaste forêt d'Écarnute vivait Aelorix, un druide sage et respecté. Il connaissait les secrets des plantes, les étoiles et les légendes anciennes. Il était capable de reconnaître Jupiter dans un ciel étoilé. Pourtant, il lui manquait encore une chose, une potion qui donnerait à son peuple une force inégalée pour protéger leur village des envahisseurs romains. Cela faisait trop longtemps qu'il subissait des attaques et le village devenait de plus en plus faible. Un matin, lors de sa balade de cueillette, et alors qu'il observait les oiseaux dansant au-dessus d'un vieux chêne, Aelorix vit un écureuil grignoter une graine étrange. L'animal se mit à bondir avec une énergie incroyable, escalada dans les arbres plus vite qu'une flèche. Intrigué, il voulait savoir pourquoi cet écureuil paraissait si fort après les avoir mangés. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, une silhouette surgit des fourrés. C'était Morgaine, un druide renégat aux intentions troubles. « Que fais-tu ici, Aelorix ? » demanda-t-il d'une voix sifflante. Morgaine, jaloux de son ancien confrère, ne voulait pas qu'Aelorix découvre une potion pour renforcer son village. « Je cherche de nouvelles plantes pour mes potions, » répondit Aelorix prudemment. Mais Morgaine, flairant un secret, tenta de s'emparer des graines qu'il tenait dans la main. S'ensuivit une lutte où Aelorix dut user de toute sa ruse pour distraire son adversaire. Profitant d'un moment d'inattention, il jeta une poignée de poudre de gui au sol, créant un nuage aveuglant. Profitant de la confusion, il s'échappa en courant vers son village. Morgaine se retrouva seul au milieu des bois, les yeux tout rouges et gonflés. « Satané druide, toujours un tour pour disparaître !» Cependant, un autre défi l'attendait encore. Les graines qu'il avait ramassées n'étaient qu'un des ingrédients nécessaires. Il devait aussi récolter une fleur rare, la belladone dorée, qui ne poussait qu'au sommet des falaises bordant la rivière sacrée. Le chemin était dangereux, semé de pierres glissantes, de sangliers et de courants traîtres. Bravant le vent et la pluie, Aelorix escalada avec prudence la paroi rocheuse. À mi-hauteur, son pied dérapa sur une pierre humide et il manqua de basculer dans le vide. Son cœur battait à tout rompre, mais il s'agrippa de justesse à une racine. Il faut savoir que les druides ne savent pas nager. Il atteignit enfin la précieuse plante, l'arracha délicatement et redescendit prudemment jusqu'au sol. De retour dans sa hutte, il entreprit de préparer la potion. Il broya les graines, ajouta du miel et un brin de verveine, puis fit chauffer le tout dans son chaudron. Pourtant, malgré tous ses efforts, la potion ne prenait pas. Frustré, il essaya plusieurs combinaisons. Mais rien ne fonctionnait. Désespéré, Aelorix se plongea dans les vieux grimoires de son maître. Après des heures de recherche, il trouva un papyrus ancien, dissimulé entre deux pages d'un livre ramené d'un voyage à Alexandrie. Il y était inscrit « L'ordre fait la force ». D'abord le miel, puis les graines, enfin la fleur sacrée sous la lueur de la lune et de Jupiter. Aelorix comprit alors son erreur. Il attendit la nuit étoilée de la prochaine lune, suivit minutieusement les instructions et, cette fois, la potion prit une magnifique teinte dorée. Curieux, il en goûta quelques gouttes et sentit immédiatement une vague d'énergie parcourir son corps. Son esprit devint plus vif et il se sentit aussi fort qu'un sanglier enragé. Ravi de sa découverte, il testa la potion sur quelques guerriers du village. Aussitôt, il courait plus vite, soulevait de pierres énormes et se sentait invincible. Mais Aelorix savait qu'un grand pouvoir demandait sagesse et précaution. Il enseigna donc à son peuple que cette potion ne devait être utilisée qu'en dernier recours et toujours avec humilité. Grâce à cette nouvelle force, les Gaulois purent défendre leur village avec bravoure et les Romains, stupéfaits, prirent la fuite. La potion d'Aelorix devint un secret jalousement gardé, transmis uniquement aux druides dignes de confiance. Le papyrus fut renvoyé en Égypte pour ne plus être à la portée de tous. Ainsi, dans les forêts profondes de la Gaule, le savoir des druides et la magie des plantes continuèrent à veiller sur leur peuple, à jamais protégé par la sagesse d'Aelorix, qui transmit son savoir aux druides les plus sages. Fin de l'histoire.
Ah,
apple, banana, carrot, peas, tomato, egg, milk, healthy food. Yes, 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 healthy food is good for me. Healthy food. Yes, 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 yummy, yummy, and fish tongue. Orange, cheese, chocolate cake, healthy food. Yes, 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 healthy food is good for me. Healthy food. Yes, 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 yummy, yummy, and fish tongue.
Salut les kids, c'est terminé. Merci à vous tous les enfants de m'avoir écouté pendant ces 15 émissions que je vous ai fabriquées. Je laisse la place et n'oubliez pas les enfants, l'imaginaire est un lieu où tout est possible. Maintenant, place au jeu, aux rencontres et aux histoires, mais aussi à la différence et à la curiosité. Moi, je pars vers de nouvelles aventures. C'était Nicolas et Elliot sur Radio G. Allez, salut les kids.
Salut les kids!
Salut les kids! C'était l'émission pour enfants de Radio G.
Retrouvez-nous en podcast sur le site www.radio-g.fr.
Radio G.